Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
C'est un livre que je n'ai pas choisi d'écrire. Il m'est un peu tombé dessus. Dans une forêt du Jura, Christian, 61 ans, ex-tourneur sur bois devenu infirmier, chute dans le vide à quelques semaines de la retraite. On le retrouve 3 jours plus tard, au pied d'une falaise. Son fils, l'écrivain Pierrick Bailly, l'auteur de Polichinelle ou de L'étoile de Otakam, revient sur les lieux pour une balade funèbre sous les conifères, le temps d'un bref récit calme et intranquille intitulé « L'homme des bois », publié en 2017 aux éditions POL et sorti en poche chez Gallimard. « C'est un livre que je n'ai pas choisi d'écrire, il m'est un peu tombé dessus », dit donc l'auteur, né en 1982 et vivant aujourd'hui à Lyon. « L'homme des bois » n'est pas seulement le récit de la mort brutale et mystérieuse de mon père, c'est aussi une évocation de la vie dans les campagnes françaises. C'est l'histoire d'une émancipation, d'un destin modeste, intègre et singulier. Et parvenu au terme de cette introspection pudique dans ces paysages sauvages qui lui rappellent les bois envoûtés de Twin Peaks, Pierrick Bailly écrit « Il m'arrive de penser à cette histoire comme à une sorte de roman noir, un polar sans coupable, sinon la nature, la vie rurale, la forêt jurassienne. » Bonsoir, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez du lundi au jeudi de 21h à 22h, tel un phare dans la nuit, à l'orée du livre autobiographique de Pierrick Bailly, L'homme des bois. Il y a d'abord ces 3 pages qui plantent le décor.
Nova Book Box, allez, sois chou, lis-moi un bout.
Tout le monde me dit que j'ai de la chance d'être seul, de n'avoir ni frère et sœur, ni une belle-mère possessive avec qui me déchirer. La plupart de ses amis me racontent « Moi, pour ma mère, moi, pour mon père, on a bâclé l'affaire, ça m'a fendu le cœur, miné le moral, j'en souffre encore aujourd'hui. » C'est vrai que je suis tranquille à ce niveau-là. Depuis le début, je m'occupe de tout, je ne laisse personne choisir à ma place, je décline poliment les propositions d'aide et surtout, je vis à mon rythme. Son petit appartement au 5e et dernier étage sans ascenseur d'un immeuble type HLM, construction des années 70 sans charme, venait d'être payé et je ne suis pas pressé de m'en débarrasser. J'y passe des week-ends seul. Parfois, je m'y établis pendant une semaine ou deux avec ma femme et nos 2 filles, alors que de son vivant, nous ne restions jamais plus que le temps d'un repas. En 10 ans, je n'avais dormi qu'une nuit ici, sur le canapé du salon où je m'installe désormais et qui reste ouvert en permanence. Je ne dors pas dans son lit, je ne porte pas ses habits. Mais je mange dans ses casseroles, je me sers dans sa cave à vin, j'écoute sa musique, ses disques, tous les chanteurs engagés qui ont bercé mon enfance à ses côtés. Je fourre mon nez dans son bordel, je fouille, je trie, je classe, je range, je jette. Parfois je m'y mets avec plaisir, je peux y trouver une forme d'excitation, propre à toute démarche qui consiste à infiltrer l'intimité d'un autre, une réaction normale. Et puis, il faut dire que ce n'est pas la matière qui manque. Il y en a chez qui on a fait le tour de la question en moins d'une heure. Il y en a qui ne gardent rien, qui n'ont jamais rien eu. Dans l'appartement de mon père, au contraire, ça déborde de boîtes, de classeurs, de cahiers, de dossiers, de pochettes, de sacoches, de valises, le tout plus ou moins bien archivé dans les placards et sur les étagères. Lui, il gardait tout. Au début, je me disais que j'allais faire une ou deux découvertes, un petit trésor, quelques secrets, mais plus j'avance dans ma tâche et plus je suis frappé par la cohérence de son personnage. Tout va dans le sens de ce que je sais de lui, de l'image que j'ai de lui. Tout est en accord avec les convictions qu'il affichait. Tout lui ressemble. Il avait son univers, son monde à lui, un monde qui ne s'était pas construit seul et dont il était loin d'être l'unique représentant, une bulle, comme il en existe d'autres, comme on en a tous. Une bulle pas totalement coupée du monde, ce qu'on appelle un petit monde. Le petit monde de mon père semblait avoir été envisagé précisément pour se protéger du grand monde. Peut-être pas pour le combattre, disons pour s'affranchir du mieux possible des valeurs dominantes de l'époque, celles de la consommation et du capitalisme. Ce petit monde était fait d'actions sociales, d'engagements politiques et associatifs, de chansons françaises, de distractions culturelles et de promenades en nature. C'est à l'occasion de l'une de ses promenades, seul en forêt, à quelques kilomètres de chez lui, qu'il a glissé sur une pente raide et humide et qu'il a dévalé sur une vingtaine de mètres sans un arbre ni un buisson pour se rattraper avant de chuter dans le vide d'une petite falaise de 3 ou 4 mètres et de venir s'éclater la tête sur une dalle de roche calcaire à l'endroit où le ruisseau de la Baume prend sa source. Il est resté là pendant 3 jours et personne ne s'est vraiment inquiété puisqu'il était en vacances et qu'il était célibataire. Les habitants du coin ont fini par signaler sa voiture stationnée au bord de la route et comme il avait laissé une des vitres entrouverte, les gendarmes ont pu débloquer la portière. Un chien est entré à l'intérieur pour renifler son odeur puis les a guidés jusqu'à son corps.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Maybe.
Céleste, Father Son, le fils de son père. Céleste chante le deuil et l'absence sur son premier mini-album, Lately, sorti en avril dernier, où sa voix s'est imposée comme une révélation. La jeune Anglaise, élevée à Brighton avec les classiques de la soul, s'est installée à Londres pour produire cette chanson où plane l'ombre de son père disparu. C'est pas joyeux, mais c'est très beau, un peu comme le livre de Pierrick Bailly auquel je consacre mon émission de ce soir, L'homme des bois, dont voici un deuxième extrait.
Nova Bookbox, c'est comme un jukebox, mais avec des livres.
D'après l'adjudant Bouvray de la gendarmerie de Lons-le-Saunier, mon père serait mort sur le coup. Mais d'après le médecin légiste, il se serait déplacé après sa chute. Le médecin prétend que son corps n'a pas été retrouvé exactement au pied de la petite falaise, mais une dizaine de mètres plus loin, dans le lit du ruisseau quasi à sec à cette période. Auquel cas, il n'est pas forcément mort le jour de sa chute, mais peut-être le lendemain, après plusieurs heures d'agonie. Ça, le médecin ne peut pas me le garantir. Il s'est peut-être réveillé quelques heures après sa chute et s'est relevé pour retomber après seulement quelques pas. Il a peut-être rampé sur quelques mètres. Il s'est peut-être déplacé dans un état de demi-conscience. L'adjudant Bouvray, de son côté, maintient sa version des faits. Quand je lui parle de mon échange avec le médecin légiste et du corps retrouvé à une dizaine de mètres du pied de la falaise, il invoque l'élan qu'il aurait pris en dévalant la pente et surtout la possibilité d'un ou plusieurs rebonds. Il prend même l'exemple d'une balle de tennis et d'un ballon de rugby. Je suis censé me représenter mon père comme une balle de tennis ou un ballon de rugby. J'essaie, je ferme les yeux, je les rouvre rapidement. Pas très sérieux tout ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? L'affaire a été classée le soir de la découverte du corps. Le procureur n'a pas jugé nécessaire de faire pratiquer une autopsie. Mon père a été déclaré mort en forêt suite à une chute accidentelle. Ce que je peux faire, c'est mener mon enquête à ma manière, retourner sur les lieux du drame et interroger le paysage, observer, émettre des hypothèses. Je peux continuer à fouiller dans ses affaires en espérant trouver un indice, un signe, une preuve. Je peux m'asseoir par terre dans son salon lumineux, avec vue sur toute la ville d'un côté et sur les contreforts du premier plateau de l'autre, et attendre une révélation, une illumination. Je peux aussi monter dans sa voiture et m'éloigner un peu, partir à la journée dans le Haut-Jura, et retrouver ses sites favoris, grottes, belvédères, châteaux en ruines, lacs, lugubres, paumés au milieu des bois. En arrivant sur le premier plateau, je jette toujours un œil au grand panneau du Conseil général recensant le nombre de morts et de blessés par accident sur les routes du département pour l'année en cours. Les routes jurassiennes sont meurtrières, et celles-ci en particulier, le tronçon entre Lons et Nogna, où se trouve la discothèque Le New Look. Le bas-côté est orné d'une succession de croix fleuries marquant les lieux de crash mortels. Il m'arrive alors de penser à la série Twin Peaks.
«
dont le générique de début s'ouvre sur une image d'un panneau au bord d'une route de montagne souhaitant la bienvenue dans cette commune où se déroule l'action. Welcome to Twin Peaks. Sur ce panneau-là, ce n'est pas le nombre de morts sur les routes, mais d'habitants de la commune qui est annoncé, 51 201. Il n'y a pas de ville aussi grosse dans le Jura. Twin Peaks, c'est trois fois Lons-le-Saunier. La série de David Lynch est souvent mentionnée pour parler du Jura. Les forêts de sapins, les scieries, les grumiers, ces camions qui transportent les troncs coupés, le parallèle est évident. Mais la comparaison vient toujours d'un regard extérieur. Moi-même, il m'a fallu quitter le Jura pour que l'endroit où je suis né et où j'ai passé les 20 premières années de ma vie m'évoque quelques œuvres de fiction. Avant ça, c'était chez moi, donc cela ne se comparait pas, cela ne se décrivait pas. Ça n'avait pas besoin d'être raconté, ou pire, critiqué, puisqu'il n'y avait que ça. C'était le seul endroit possible, puisque c'était là que je vivais depuis toujours. C'était le seul endroit que je connaissais, c'était le centre du monde, ni plus ni moins. Il m'a fallu prendre mes distances pour me rendre compte qu'on pouvait ne pas savoir situer mon petit département sur une carte, et même ne pas savoir qu'il existe. Qu'on pouvait manger de la vache qui rit sans savoir qu'elle est fabriquée à Lons-le-Saunier. Qu'on pouvait chanter la Marseillaise sans savoir que Rouget de Lisle, son auteur, y est né, tout comme mon père et mes 7 frères et sœurs.
Putain, où sont mes lunettes? J'ai encore perdu mes lunettes. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi?
C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup la poésie qui m'a amené à la lecture, en fait.
La poésie, c'est très sensuel, vivant, coloré, charnel.
La nuit m'inspire beaucoup.
I'm up in the woods. I'm down on my mind. I'm building a still. To slow down the time. I'm up in the woods. I'm down on my mind. I'm building a still. To slow down the time. I'm up in the woods. I'm down on my mind. I'm building a still to slow down the time. I'm up in the to slow down the time. I'm up in the woods. I'm down on my land. I'm building a still to slow.
I'm down on my land. Still.
Je suis perdu dans les bois, je suis agenouillé. Telles sont les prières entêtantes de cette chanson des Américains de Bon Iver, Woods, publiée il y a 10 ans, en 2009, et qui fut par la suite samplée par Kanye West. Dans les bois, on y retourne avec un troisième extrait du court et très beau livre de deuil de Pierrick Bailly, L'Homme des bois, publié il y a 2 ans chez POL et disponible en poche chez Folio.
Nova Book Box, des bouquins à la louche, lus à la bouche.
Je suis tombé en arrêt devant un de ces chevalets en aluminium en travers du trottoir qui affiche les couvertures des magazines People et les gros titres des quotidiens. Un poster à En tête du progrès annonçait le corps d'un homme retrouvé au pied d'une falaise. Dans le bureau de tabac correspondant, j'ai attrapé 2 exemplaires du journal. L'affaire était en une. En sortant de la boutique, j'ai retiré l'affiche du panneau en aluminium, puis j'ai marché 100 mètres pour faire de même chez un autre buraliste. Dans la journée, j'en ai arraché 10 que je déchirais aussitôt et jetais dans la corbeille la plus proche. Le lendemain, rebelote. Toute la ville continuait à afficher des nouvelles de l'affaire sur ses trottoirs. La mort du sexagénaire serait accidentelle. Mon père a commencé à travailler à 17 ans. Il est mort à 61 ans. Les dernières années, il ne parlait que de ça, cette putain de retraite qui se rapprochait, qui lui tendait les bras, et qui l'inquiétait sans doute un peu, mais sur laquelle il n'aurait pas craché, ça non, sûrement pas. Il ne supportait plus le boulot, son chef et ses collègues en savaient quelque chose. Il est mort 3 mois avant la fin. Ça revient dans tous les commentaires. Si près de cette retraite qu'il espérait-on, à quelques semaines près. Si c'est pas cruel, non mais si c'est pas dégueulasse, franchement. À ceux qui me demandent ce qu'il aurait fait de sa retraite, je réponds qu'il aurait continué à aller se balader dans les bois, presque tous les jours, à sortir de chez lui, à prendre son vélo, pour aller faire le marché le jeudi matin, pour aller au cinéma et au spectacle, pour aller manifester quand l'occasion se serait présentée. Depuis 40 ans, il était de toutes les manifs à Lons. Ce n'était pas une grande gueule ou un beau parleur, ce n'était pas un meneur, pas un leader, il ne se mettait pas en avant, il n'apparaissait pas en tête de cortège, il se sentait mieux au milieu, un peu à l'abri dans la foule, il était de nature discrète, il était plutôt arrangé dans la catégorie des craintifs, des maladroits. Ce n'était pas un idéologue, pas un théoricien, ce n'était pas non plus un littéraire ni un cinéphile, même s'il aimait lire et aller au cinéma. Il n'avait pas fait d'études, il n'avait pas le bac. On ne s'est pas construit de cette façon-là.
Nova Book Box, sous les couvertures, des personnages au poil.
Dans le Jura, comme partout ailleurs, il y a des dingues et des paumés. Mais dans le Jura, il n'y a qu'un seul Hubert Félix Stiefen qui chantait en 1982 « Les dingues et les paumés », cette chanson tendre et inspirée sur les marginaux volontaires, chanson que j'applaudis très fort. Est-ce qu'on n'y retournerait pas encore et encore dans ce Jura au vrai faux air de Twin Peaks, dans les pas et dans les mots de Pierrick Bailly, au fil de son livre « L'homme des bois », pour tenter avec lui de comprendre qui était son père, mort d'une glissade en forêt à 61 ans. Allez.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
C'est sur les flancs du premier plateau qu'il a dégringolé. Et c'est grâce à la photo de Une du Progrès que j'ai compris comment rejoindre l'endroit où mon père a été retrouvé. Dans le discours que j'ai écrit pour la cérémonie, j'ai dit quelques mots de cette forêt sombre et pentue, au sol meuble de cette petite falaise, de la source du ruisseau, de la dalle de roche calcaire où son corps était étalé sur le dos. J'ai mentionné un décor à la puissance évocatrice, un paysage qui ouvre sur l'imaginaire une nature sauvage et magnifique. Quelques jours plus tard, des amis de mon père sont venus me confier qu'ils ne partageaient pas mon point de vue. Ils trouvaient cette forêt angoissante, effrayante, terrible, froide, sèche, noire, mortifère. Les événements y étaient forcément pour quelque chose, mais ce n'était tout de même pas le genre d'endroit où ils viendraient se promener pour le simple plaisir des yeux. C'est vrai que mon père n'a pas glissé sur une grappe de raisin sur les coteaux de Château-Chalon. Je veux dire par là qu'il n'est pas mort dans un décor de carte postale. Pourtant, il y a de quoi faire dans le Jura. Les photographes du dimanche s'en donnent à cœur joie, sortent le téléobjectif pour capturer les couleurs de l'automne, les cascades en éventail, un chamois juché sur un piton rocheux. Mon père n'était pas le photographe. Mon père, c'était le chamois. Moi aussi, j'aurais préféré que ce jour-là, il aille se promener sur la voie verte un peu plus haut dans la forêt. Sur la voie verte, au moins, il n'y a aucun risque de glissade. Mais une sortie sur la voie verte, c'est un coup à croiser des familles à vélo et des promeneurs à chiens. Je ne sais pas si les amis de mon père comprenaient ce que je cherchais à leur dire, et pour alimenter mon propos, je me suis amusé à dégainer quelques formules ou comparaisons un peu idiotes dans le style de « Mon père sur la voie verte, ce serait comme confier une caisse à savon à un pilote de rallye, ou bien comme de lâcher un plongeur des bas-fonds dans une pataugeoire, ou encore comme de demander à un astronaute de sauter depuis, de s'élancer sur une... » Je me suis mis à m'emmêler les pinceaux, mais je crois qu'il commençait à comprendre. Ce que je voulais dire, c'est que c'était un endroit qu'il aimait, que c'était une forêt où il se sentait bien, précisément pour son côté sombre et rude et inhospitalier. Je voulais dire que c'était une forêt qui lui ressemblait et qu'elle était à son image, de type solitaire, un peu sauvage. Parce que c'est vraiment cette représentation de lui que je voulais défendre à ce moment-là. Je m'accrochais à cette idée qu'il était mort dans les bois comme un marin meurt en mer. La forêt qui prend l'homme. Mon père, cet aventurier. La vérité est probablement moins romantique. Ce qu'il faisait en forêt de Révigny ce jour-là, je crois le savoir. Lors de mon premier rendez-vous avec l'adjudant Bouvray, il a été question de la paire de chaussures qu'il portait. Des chaussures inadaptées à la nature du terrain. Des chaussures de ville, légères, à semelles lisses. L'adjudant m'a également appris qu'un sac plastique avait été retrouvé à ses côtés. D'après lui, le coup du sac plastique ne laissait aucun doute quant à la raison de la présence de mon père sur les lieux. Il était là pour ramasser les champignons. Le scénario qui se dessinait était donc le suivant. Mon père prend sa voiture pour aller se promener dans le Haut-Jura, peut-être pour rejoindre un de ses lacs fétiches. En chemin, il s'arrête le long de la route, en surplomb d'une forêt pentue et ombragée, réputée pour abriter des champignons délicieux, ces fameuses morilles. Il ne prévoit pas d'y rester bien longtemps et ne juge pas nécessaire de sortir ses chaussures de randonnée du coffre et d'emporter avec lui son sac à dos, qui attend sur le siège passager et dans lequel j'ai retrouvé un thermos de tisane et un paquet de gâteaux secs. Il ne se saisit que d'un sac plastique en espérant le remplir de quelques trouvailles. Il descend dans le bois et il se sent en confiance. À un moment donné, il se retrouve en situation de franchir une pente raide, en situation de prendre un risque. Il pourrait rebrousser chemin. Il décide de tenter le coup.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Dropped out of school and bought myself a chain. I must have taught myself a million things. I'm out the trap, I can sell anything. I wish I would allow myself to hear that soul dream. I pray my daughter never ever experience no dream. I told her Colgate, baby, gotta keep your teeth straight. Bay, I'm flexing, extensive. Brand new Rari, Smith & Wesson. Make myself a baller, I want my credit, y'all. Speaking of credit, bay off owe me, I got credit, y'all. V12, y'all ain't ready at all. Trapping beats, I'm like, hurry up and buy. Extra Draco for my pops, cause it's birthday 4th of July. I'm so busy, make me feel like I'm in and out my kid's life. Hey. I'm the father of 6 babies. Ooh. New coupe, new shoes.
New coupe, brand new shoes.
Hey. Red bottom kicking, shit don't floss, you know you cross. Camel toe, big, I see the print inside the suit. Rose gold, my girl up, no man in 92. Fuck them by the 2 and let them travel with a few. All this fucking money, I mean, so shit not my boo. I'm living right and ain't ever read a book. Chanel vintage, put it on the roof. The way I whip that body, charging me with cruelty. Yeah, don't try to stop me, don't you try to knock me. You see me got these crackers in the back. You gotta forgive my heart, I don't mean to stunt like that.
I don't mean to do that to you.
Red bottoms on, come at me, yellow.
I'm about to spend,
I ain't playing game. I'm on every problem,
about to spend
$2,000 for the newest snake collar.
Yeah,
Venezuela,
Venezuela.
Hey, dollar,
ain't
raw clean,
balls clean,
ball means,
let's get it.
Vintage swag,
vintage hoes,
new Celine's,
on my glasses,
hands dirty,
hey.
Watch me turn them clean,
ain't clean.
LaShotta hot,
magic,
kerosene,
bitch.
I'ma kill by any means,
keep back,
fade the sound, change jeans,
not your,
I spray a fade with my jeans,
free speak, man.
I'ma turn on my team,
turn up,
new condoms, I'm team,
condo,
I turn into something,
turn into something,
AP match my jeans,
AP.
Converse is my queen,
oh.
Padded for my queen,
sweat,
gambling for these coins,
fetish,
matches in front of the swing, Project Levine,
ass.
I'm gonna go like Bean,
go.
New bat with no strings, I put ice in my cup,
yeah.
And no pool, no chlorine, yeah. Dropped out of school and bought myself a chain. I must have taught myself a million things. I'm out the trap, I can sell anything. I wish I would allow myself to hear that soul dream. I pray my daughter never ever experience no dream. I told her Colgate, baby, gotta keep your teeth straight.
Ooh, ooh, ooh. New coupe, new shoes. Ooh,
red bottom kicking, shit on floss, you know you crossing.
Autoportrait d'un rappeur d'Atlanta, par ailleurs père de 6 marmots, bravo monsieur, qui décrit à la fois son style de vie extravagant et sa manière d'éduquer ses enfants, comme le souffle notre programmateur musical Michael Yo à propos de ce track signé Young Thug, Daddy's Birthday, publié il y a pile 2 ans. On continue, encore un peu, à marcher sur le sentier tracé par Pierrick Bailly dans son livre du père, L'Homme des Bois.
Nova Book Box,
particulièrement élémentaire.
En rejoignant le chemin de verdure où a été prise la photo qui figurait en une du journal, je présente à Amandine, ma compagne, une chose dont je lui ai beaucoup parlé. Un immense tunnel en pierre de taille creusé dans la pente, à quelques dizaines de mètres de l'endroit où mon père est tombé. Une porte noire, une bouche monstrueuse, silencieuse, monumentale, une vision hallucinante. Le tunnel est éclairé. L'édifice, de plus de 300 mètres de long, est pourvu de détecteurs de présence qui déclenchent l'allumage d'une série de néons fixés au plafond, dévoilant sa pente légèrement montante, son sol défoncé et ruisselant d'eau boueuse et ses parois rocheuses qui lui donnent l'aspect d'une grotte, plus que d'un véritable tunnel. Lors de mes premières visites, je m'attendais à tout, à me faire capturer, trucidé, dévoré par un ours ou une famille de morts-vivants. Je me disais aussi que c'était l'endroit rêvé pour croiser le fantôme de mon père, ou simplement pour lui parler. Un lieu calme, isolé, irréel, où je pouvais imaginer qu'il m'écoutait. Ma voix résonnait, je marchais lentement, et c'est à lui que je racontais tout ça. La vie après sa mort, la vie depuis sa mort. Une fois, j'ai voulu l'interroger sur sa chute, lui demander ce qui s'était passé, mais déjà la lumière du jour s'annonçait sur les parois devant moi, plus blanche que celle des néons, et j'ai fini par ressortir du tunnel. Mon père est mort juste au-dessus de l'ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Lons-le-Saunier, sa ville natale, à Saint-Claude, où il a commencé à travailler en tant que tourneur sur bois, tout en faisant escale à Clairvaux-les-Lacs, le fief familial. Parfois, je suis frappé par ces effets de cohérence, comme s'il fallait y voir un signe du destin, une raison particulière. Mais il est mort là où il vivait, tout simplement, à la façon de ces paysans qui n'ont jamais quitté leur ferme et qui s'éteignent dans la chambre où ils ont vu le jour.
Nova Book Box, c'est l'amour livre.
Cette fois, c'est moi qui joue. sonne.
Forêt, le hit du français Mathieu Lescope en 2012, plus que quelques pensées avant de quitter les bois jurassiens, décrit par Pierrick Bailly dans son livre L'homme des bois. Encore une lecture et au revoir.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Il y a eu cette carte postale, envoyée par une certaine Chantal, qui lui demandait pardon pour jeudi dernier, soit le jour de la chute. Je l'ai appelée aussitôt. Elle m'a expliqué qu'elle devait rejoindre mon père à midi et qu'ils avaient prévu d'aller se promener ensemble. Au dernier moment, elle avait annulé sa visite. Elle a ajouté que mon père lui avait paru très contrarié par ce revirement. Je lui ai dit de ne pas s'en vouloir, que ce genre de réaction lui ressemblait. Plusieurs personnes prétendaient avoir été appelées sur le coup de midi par mon père, mais elles n'avaient pas pu répondre. Je reconstituais peu à peu ses derniers instants de vie, sa dernière matinée. Je sais qu'il avait fait le marché, je sais qu'il avait déjeuné seul et qu'il avait cherché de la compagnie pour aller se promener. Et ensuite, personne n'avait la réponse. A-t-il été emporté par un éboulis, assommé par un rocher, déstabilisé par une guêpe, un frelon, attaqué par une bête? Gilbert, un de ses amis les plus proches, avait entendu à la radio une brève à propos d'un kangourou qui s'était échappé d'un zoo des environs. Et il y avait peu de chances pour que mon père ait croisé la route de cet animal égaré en pleine forêt de Revigny, mais ça nous a quand même traversé l'esprit. Nous ne voulions refuser aucune éventualité de crainte de passer à côté de la vérité. Mon père n'était pas comme les autres. Il ne faisait pas son malin. Ou alors, pas de la même façon que les autres. Il n'était pas viril, ne jouait pas les machos. Cette expression, les petites mains, c'était aussi en opposition aux gros bras. Ce n'était pas un bourrin, pas un mec comme on l'imagine, qui raconte des blagues et qui rigole fort. Il était doux et attentionné, je l'ai déjà dit. Cela plaisait aux femmes. Certaines ont dû s'y voir dans une seconde expérience de couple, espérant peut-être finir leur vieux jour à ses côtés. C'était trop beau pour être vrai. Elles pouvaient passer sur les premières réactions épidermiques, les premières colères, mais au bout d'un moment, elles craquaient. Elles claquaient la porte et ne donnaient plus de nouvelles. Parfois, ils s'en étonnaient. Tu te rends compte ? Elle est partie sans rien dire, sans explication. Il était le premier à s'offusquer de la violence des autres. Elle pouvait le révolter, le scandaliser, et il montait facilement au créneau pour la dénoncer. C'est ce qui l'horripilait tant chez les chiens, l'agressivité de leur comportement, leurs aboiements. Mais je ne l'ai jamais entendu aborder la question de ses propres coups de sang. Sa violence à lui, il était incapable de la considérer. Il fermait les yeux dessus, il mettait tout sous le tapis, il se blindait comme font les hommes. Il ne s'ouvrait que sur ses conséquences. Je l'ai si souvent entendu se lamenter de sa solitude et de ses multiples échecs, répéter en pleurant qu'il n'y arrivait pas, qu'il ne savait pas faire, et je finissais par me lever de ma chaise pour aller le prendre dans mes bras. Mon père, sans être un héros, était-il pour autant un anti-héros, un perdant éternel, comme s'il n'y avait pas d'alternative? Je n'arrive pas à le voir comme un parfait loser, parce qu'il ne s'est jamais relâché, il s'est toujours accroché, il est resté en mouvement. Depuis quelques années, il perdait le goût de la lecture. Il regardait sur son ordinateur des films qu'il empruntait à la médiathèque. Il me parlait sans arrêt d'Avatar, de la planète Pandora et de cette histoire d'arbre sacré qui permet aux humanoïdes extraterrestres d'entrer en contact avec Ewa, la divinité locale. Il guettait de près les informations sur les différentes suites de la saga. Je l'imaginais bien, une fois à la retraite, s'initier aux séries télé. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en février 2015, quelques jours après la naissance de Laura. Nous avons marché plus de 2 heures ensemble dans les rues de Lyon, tout en évoquant les événements tragiques de Paris, le rassemblement sur la place de la Liberté à Lons-le-Saunier et les commerçants qui affichaient en vitrine leur solidarité avec les victimes de Charlie Hebdo. Dans le quartier du Vieux-Lyon, il a voulu s'arrêter dans une herboristerie afin d'acheter de la tisane pour Amandine, dont l'allaitement était compliqué. La vendeuse était une jolie quinquagénaire et je m'attendais à ce qu'il se montre un peu charmeur avec elle. Mais il n'en a pas eu besoin. C'est elle qui lui a adressé les sourires les plus équivoques. Il semblait non pas blasé, mais habitué à vivre une telle situation. La confrontation m'a plutôt amusé. Après un détour par mon appartement, je l'ai raccompagné avec Lise à sa voiture, sa toute nouvelle voiture. Comme il prenait son temps pour s'installer, j'ai proposé à Lise que nous avancions sur le trottoir pour lui faire coucou quand il partirait. Nous avons traversé la chaussée au niveau de l'école maternelle. Et quand il a fini par arriver, il regardait du mauvais côté. Nous l'avons vu se pencher et nous chercher en ondulant de la tête et des épaules. Lise a un peu crié, mais il n'entendait pas. Puis il a dû nous apercevoir dans le rétroviseur central. Alors, il a ouvert sa vitre et a sorti sa main gauche. C'est la dernière image que nous avons de lui, sa main gauche s'agitant au-dessus de cette petite voiture rouge qui s'éloigne. Plus d'un an après la mort de mon père, je continue à sillonner le Jura au volant de sa voiture en écoutant ses disques et les miens, ses chansonniers et puis cette musique folk que je découvre depuis quelques mois seulement. Je ne consacre plus des heures à me triturer les méninges en essayant de visualiser la scène, en retournant la situation dans tous les sens. Je ne cherche plus à savoir à tout prix. J'essaie d'accepter le trouble. Il m'arrive de penser à cette histoire comme à une sorte de roman noir, un polar sans coupable, sinon la nature, la campagne française, la vie rurale, la forêt jurassienne.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Pitié, toi, mon amour, pitié, toi, mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur.
Pour Maillet Musique,
pitié, toi,
Rumba
mon
Session.
Amour, pitié, toi, mon cœur.
Ça, c'est pas du rap de rue, c'est du rap d'amour.
Nuit et jour pour ton seul
One love.
Bonheur.
Le lyriciste Pantou. Julien m'a dit ça volume quoi.
Si tôt le matin, je me réveille.
Et quand je me lève, la vie est moins amère. Hier j'ai fait un rêve, j'y ai vu ta grand-mère. Elle c'est mon amour, le seul véritable. J'espère te léguer sa bravoure en héritage. Tu es venu au monde et tout est devenu magique. Le bonheur a un nom, le mien je l'ai appelé Malik. Tellement de crainte, ta vie est une offrande. Quand ta mère est enceinte, c'est moi qui ai mal au ventre. Papa était un thug, des flammes dans la rétine. Il a rejoint le club des peluches et des tétines. Fini le baby blues, mettrai sur ton portrait mon cœur qui fait boum. Désormais je me sens prêt, alors je te chanterai.
Pitié, yeah. Mon amour. Pitié, toi, mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi, mon amour. Pitié, toi, mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur.
Yeah. Ok. Yeah, ok. Et quand je rentre le soir, que la vie me fait morfler. Il est déjà tard, tu es dans les bras de Morphée. Ce monde me brise, je ne suis pas infaillible. Et c'est pas le showbiz qui fait les bons pères de famille. Hip hop ma enquête, malgré les offenses. Je veux pas que le rap game te vole ton enfance. Bizarre la roue tourne, si tu manques de repères, tu me reprocheras un jour ce que je reproche à mon père. Et ton grand-père te dira qu'on porte son visage. Il t'a appelé Madiba comme ceux de son village. Dans notre culture, les mots d'amour sont rares. J'ai appris à l'usure qu'on avait tort d'en être avare. Alors laisse-moi te dire tout ce que je t'aime, même si ce n'est qu'un disque et que j'ai samplé ce thème. Une place dans ton cœur, j'aimerais y être d'emblée. J'aurais toujours peur si tu me laisses pas y entrer. Alors je te chante.
Pitié, yeah. Toi mon amour, pitié de mon cœur. Je travaille nuit et jour pour t'en
défendre. Pitié, toi mon amour, pitié
de toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour t'en défendre.
Mesdames et messieurs, le seigneur Taboulet Rochereau.
Si tôt le matin je me réveille,
c'est ça même.
Devant ta photo je me recueille.
Yeah.
Je sors sans déjeuner.
Chante papa, chante seulement.
Je pars pour travailler.
Celle-là c'est pour Malik avec tout mon amour de la part de Dali.
Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'importe le temps, tant que je t'aime.
Dis-le.
Le soir, je vais revenir.
C'est ça, même.
Je fais ton avenir.
On vous l'avait dit, c'est pas du rap de rue, c'est du rap d'amour. Chante papa, chante seulement.
Pitié, toi mon amour. Pitié, toi mon cœur.
Yeah.
Je t'aime.
Rumba old school session. Laisse tourner le son, laisse tourner le son.
Pitié, toi mon amour. Pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour seul bonheur. Pitié.
Voir désir, c'est l'album.
Pitié.
On vous avait dit que ça allait gester. Alors gestons. Yeah.
Pitié.
Ok.
Pitié.
Papa y est pas. Papa y est pas. Papa y est pas.
Pitié.
Chante seulement. Vous avez dit que ce sample il allait
gester.
Youssoupha qui invite et sample son propre père, l'illustre chanteur congolais Taboulet Rochereau, sur ce morceau tendre et rythmé. C'était en 2012 et ça s'intitulait tout simplement Les disques de mon père. La Nova Book Box, c'est tout pour ce soir. Lisez L'homme des bois de Pierrick Bailly. J'en ai dit beaucoup de ce petit livre bouleversant, mais je n'ai pas tout dit. L'émission de ce soir a été réalisée par Sylvain Clabot. Programmation musicale, Mickaël Yo. On se retrouve demain, 20 juin, veille de l'été, pour des conseils de lecture que nous sommes allés piocher un peu partout dans Paris, chez des libraires, en leur demandant ça. Quel est pour vous le livre le plus bizarre que vous pourriez nous recommander cet été? Peu importe le genre, roman, essai, BD, poésie, théâtre, peu importe l'époque ou le pays, il n'est pas nécessaire non plus que ce soit une sortie récente. Non, mais une curiosité qui vous paraît indispensable de glisser dans sa valise pour les vacances, l'antidote absolu au livre de plage, le contraire du best-seller, le truc génial qui ne fait pas l'unanimité mais qui remue, qui fait rire ou qui interroge. Un bouquin rare et louche, vous entendrez demain une douzaine de libraires répondre à cette question. Mais d'ici là, bonne nuit et à demain.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.